France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. J'en ai marre du mot juste et des poètes à qui j'ai essayé d'apprendre le mot juste. Je suis devenu un miroir kid, niant le kid, un ange devenu noir, un poisson de culte découpé au bord de la mer par mouette nécrophage. La poésie, on l'écoute. Les poètes, on doit aussi leur tendre le micro. Le baptême public de la nouvelle poésie anglaise, selon Pierre Joris, le producteur de l'émission Albatros, qui vient, ce fut en 1965 à l'Albert Hall. Pour illustrer le renouveau de la poésie anglaise au début de la deuxième moitié du XXe siècle, une rencontre avec un poète anglais qui écrivait en anglais mais affirmait ne pas écrire à l'intérieur d'une définition étroite de ce qu'on pourrait appeler la culture anglaise standard, celle de l'establishment. Eric Mottram. Albatros, la nouvelle poésie anglaise par Pierre Joris, réalisation Jacques Taroni, première diffusion sur France Culture le 2 octobre 1983.
Albatros. La nouvelle poésie anglaise par Pierre Joris. Aujourd'hui, Eric Mottram.
La nouvelle poésie anglaise, 5 rencontres. Depuis 20 ans, quelque chose d'extraordinaire se passe dans la poésie anglaise. Je pense qu'il n'est peut-être pas exagéré de parler d'une vraie renaissance, telle que l'Angleterre n'en a pas vu depuis le temps des grands romantiques, depuis Shelley, Keats, Byron. Ce qui est certain, c'est que le foisonnement actuel de recherches formelles, la richesse du débat, la multiplicité et l'ampleur des œuvres témoignent d'une énergie que la Blanche Albion n'a plus connue depuis le Blast de Pound et de Wyndham Lewis avant la Première Guerre mondiale. Il y a bien sûr dans ce que je viens de dire matière à controverse. Mais je ne pense pas me tromper en affirmant que des années 20 aux années 60, la poésie anglaise, et je ne parle pas là de l'Écosse, ni de l'Irlande, ni du Pays de Galles, n'a fait que stagner. Bien sûr, il y a eu quelques exceptions. Auden, Empson, par exemple, dans les années 30. Malheureusement, durant les années 50, les choses s'étaient encore dégradées. Pour preuve, ces quelques phrases tirées de l'introduction d'une des anthologies de cette période, anthologie qui reflète encore aujourd'hui ce que l'establishment considère comme poésie valable. La poésie doit être stricte, sobre, car il n'est pas bon pour une nation, ni pour un individu, de constamment mettre en lumière, scruter, questionner les principes qui règlent sa vie. Ce sont les habitudes qui font la force de la vie, sa grâce et son unité. Le poète et critique Eric Mottram, que nous allons rencontrer sous peu, a parfaitement résumé cette situation. Depuis les années 30, écrit-il, la poésie officielle anglaise a favorisé le minimum d'invention et d'information et le maximum de finesse ironique, d'anecdotes vernissées et de détails rustiques. Elle a préféré le trait d'esprit, les civilités et une certaine sensibilité baroque à l'intelligence avertie et au risque d'une forme imaginative. C'est face à ce marasme-là que s'est fait le Renascimento des années 60 et 70. Il n'est pas surprenant que des énergies venues d'autres pays, l'Amérique, Yankee et Latine, la France, l'Allemagne, d'autres pays encore, ont joué un rôle prépondérant dans l'évolution de cette renaissance. Les poètes que nous allons rencontrer en reparleront. Une date importante, l'été 65, date de la grande lecture à l'Albert Hall de Londres, qui fut le baptême public de cette poésie et qui la fit découvrir à des milliers de gens. Ce que la vieille garde avait essayé de cantonner dans la poussière des bibliothèques, renaquit ce jour-là par la voix vive des poètes. Voix qui, depuis, n'ont plus cessé de résonner dans un cortège impressionnant de lectures, car pour la plupart de ces poètes, le texte imprimé n'est, sinon lettre morte, guère plus vivant que les notes d'une partition musicale. Voici quelques-unes de ces voix. 5 voix, 5 œuvres, 5 grands poètes anglais. Thank you. Première rencontre, Eric Mottram. 57 ans, universitaire et poète. Auteur d'innombrables articles sur les littératures anglaises et américaines, d'une étude sur Faulkner, du fameux livre sur Burroughs, L'algèbre du besoin, et d'une quinzaine de recueils de poèmes. Homme infatigable, Eric Mottram a donné son nom à une nouvelle unité d'énergie. Ses amis en effet parlent du MOT, la quantité d'énergie dépensée par Mottram en une seule journée. J'ai rencontré Eric Mottram chez lui à Herne Hill, un quartier du sud de Londres, à proximité de Brixton. Nous avons parlé dans son living à côté du piano, où il trouve encore le temps de jouer une heure ou deux chaque jour. Au-dessus du piano, une magnifique et très grande toile d'Alan Fisher. Nous sommes des poètes anglais, oui, et nous écrivons en anglais, pas d'erreur possible. Mais nous n'écrivons pas à l'intérieur d'une définition étroite de ce qu'on pourrait appeler la culture standard anglaise, celle de l'establishment. Qui lie la poésie à une métrique très stricte, iambique, à rime, à des démarches très confessionnelles, autobiographiques, des manières proches de Thomas Hardy, d'Edward Thomas, et, assez étrangement, du poète américain Robert Frost. Il y a aussi dans ce pays une poésie autre, une poésie qui reconnaît qu'il y a eu des bouleversements dans ce domaine à partir de la fin du 19e siècle. Changement dû en partie aux symbolistes français, Mallarmé, en partie à la poésie surréaliste française, Breton,
Sarah,
que Lee Harwood, un de nos meilleurs poètes, a traduit en anglais. C'est dû aussi à un intérêt pour certains poètes allemands.
Celan,
Trakl,
Rilke. And of course, overwhelmingly,
et par-dessus tout, il y eut l'effet de la grande poésie américaine des années 50 et 60, Ginsberg, Kerouac, Zukovsky, Olson, Duncan. Nous avons hérité de ces gens, mais pas au niveau d'influence banale. Ne négligeons pas notre culture. Beaucoup d'entre nous avaient senti qu'ils étaient dans un cul-de-sac par rapport à la culture officielle anglaise, très contenue. Et les plus vieux parmi nous pensaient qu'il n'y avait pas d'issue. Personnellement, j'ai senti très tôt qu'il n'y avait aucune voie pour moi si je voulais écrire la poésie. Je ne voulais pas écrire comme Kingsley Amis, ni comme William Empson, que je respecte beaucoup plus. Je voulais écrire quelque chose de nouveau, quelque chose qui dépasserait cette poésie standard. Et c'était très difficile. Mais puis, il y a eu cette explosion extraordinaire de poètes américains des années 50 et 60, dont beaucoup sont venus à un moment ou un autre en Angleterre. Et nous avons trouvé des manières, ne pas simplement imiter ces poètes, mais d'être libérés par eux, par leur façon de procéder.
Homage to Ferenc Juhasz, number one. In the call to home, her voice encircles each bowl into his world the years of lives to come. His honed voice hangs in the branch, swayed, leaf-rustled air, the gate of secrets. Cantata profana of the sun stag, light-hung antlers, star hairs, eyes of knowledge in a mask of deer, coils of head antennae reach into distant forest circuits. Home cried out to be bride, roiled in a clearing, to be generate, needing the stag back as a returning boy. Of her past, as if she centralized the wild geese, the shining potato flower, reed-fingered fish in rings of forest water, smell of blood in her spells. She tries to quieten the silent sounds of creatures. She does not need. Her son must return, but it is he who gathers forest to a distant point, shining with atom's depth. She cries, "My own!" A spiral scream ropes out to nighter caves. Pits of ore his hooves guard. She cries, "Your fountainhead!" He lowers his branch-crowned head to forest surface. Sees fish beneath the mouthed surface. She cries, "Flesh, tougher shell, come, control them with your knife again. Afford images of revolt for their screen. Breathe their life and call it revolt some future." Her calcium knuckles, cocks crowing in sodium city dawn. She cries, "Your own mother!" Eyes without face, stone apples, the Gorgon Hesperides of Tangier. "Breathe," she howls, "into things your life again."
Dans l'appel au foyer, sa voix encercle chaque fût, pénètre son monde, les années de vie à venir. Sa voix rappelée pend à la branche, feuilles agitées, air froissé, la porte des secrets. Cantate profane du cerf-soleil, bois porteur de lumière, chevelure d'étoiles, yeux du savoir dans un masque de cerf, torsade d'antennes céphaliques pénètrent les lointains circuits forestiers. Le foyer cria son désir d'être marié, troublé dans une clairière pour engendrer, rappelant le cerf, besoin du retour d'un garçon, de son passé, comme si elle centralisait les oies sauvages, la fleur de pommes de terre luisante, poisson caressé par les roseaux dans l'eau annelée de la forêt, odeur de sang dans ses envoûtements. Elle essaie d'apaiser les sons silencieux des créatures. Elle n'a pas besoin, son fils doit revenir, mais c'est lui qui ramasse la forêt vers un point lointain, brillant avec la profondeur de l'atome. Elle s'écrie « Le mien ». Un cri en spirale se déroule vers les cavernes nitreuses. Puis de minerai qui garde ses sabots, elle crie « La source ». De ta source, il baisse sa tête couronnée de branches vers la surface de la forêt. Voit des poissons sur la surface lapée. Elle s'écrie « Chair, dure comme coquillage ». Contrôle-les de nouveau avec ton couteau. Donne-toi des images de révolte pour leur écran. Respire leur vie et appelle ça révolte. Quel avenir! Ces phalanges de calcium, coques qui chantent dans l'aube sodium de la ville, elle crie ta propre mère, yeux sans visage, pomme de pierre, les hespérides gorgones de Tanger, souffle, hurle-t-elle, ta vie dans les choses de nouveau.
J'aimerais d'abord dire que ces poèmes sont placés dans un contexte beaucoup plus large, le Book of Hearn. Et pour éclaircir ce contexte, j'aimerais dire un mot des matériaux qui sont entrés dans ce livre. Un des chaudrons de Gundestrup montre, sur une de ses faces internes, Un des grands dieux celtes, Cronunnos, seigneur des animaux, la tête couronnée de bois de cerf et portant autour du cou un torque signe de son pouvoir social et sacré. Sa main gauche brandit un serpent à tête bélier, tandis que dans sa main droite, il tient un autre torque. Ce chaudron argenté, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, a survécu dans un marécage danois. Mais le plus extraordinaire, c'est que ce dieu celte soit assis dans une position bouddhique, sinon yogique, d'énergie contrôlée, comme d'ailleurs on le voit sur beaucoup d'autres images celtes. L'autre face du chaudron reproduit l'image d'un personnage qui tient dans sa main droite le signe solaire de Tyrannis, le dieu du tonnerre. Figure qu'on peut d'ailleurs voir aussi en Grande-Bretagne, près de Newcastle. Cette position est celle de Shiva, ou plutôt de Shiva sous son incarnation de Pashupti, seigneur des animaux, qui lui aussi apparaît avec des cornes et les jambes croisées. On a donc affaire ici à une image complexe, englobant Cernunnos et Shiva, et liée d'autre part à la figure d'Orphée, dieu des transformations, de la musique, de la poésie, évidemment aussi représenté entouré d'animaux qu'il tient en son pouvoir. Ces figures sont d'ailleurs toujours cornues et sont toujours liées au cerf, l'animal et le dieu cerf. Et c'est ici que Yoash m'intéresse beaucoup. Lui aussi travaille avec ce matériel. Ce que dit le mythe, c'est pas besoin de tuer ses cerfs. Vous pouvez habiter sa peau et sa tête d'une certaine manière. Une partie de mon livre a donc à voir avec cette invention des êtres humains européens. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de quelque chose d'exclusivement anglais. Ça mène à d'autres parties de l'Europe et évidemment aussi aux aires celtiques de la France.
Le garçon hocha la tête, les narines des valves dans son mufle tremblant, au bruissement de brindilles sous le pas de son faux chasseur, fougère du jeune printemps sous les pieds. Il fixe le pelage dans l'eau qu'éclaire la lune, son pénis, un pompon avachi, l'envie de gratter la terre dure, de mugir la laine, se givrant lentement, déforme devant ses yeux, immense dans la clairière, au-dessus de l'écume, lune. Il masque l'expression. Éventuellement, elle entend un langage. Je ne peux pas retourner. Le printemps est plus merveilleux que jamais. J'arracherai père à sa tombe. Toi, mère, tu ouvrirais au bâillement des étoiles le piétinement de ton fils, aux sabots de corne. Des bois de feu remplissent le ciel nocturne, nuageux. Un arbre en os de sa tête comploteuse. Je détruirais ton mur, ton puits. Des parterres de fleurs, j'en ferai un cimetière, j'éparpillerai les os, déposés de perles, de ta cuisine, un amas de tessons. Elle verse du vin, arrache du chien-dent, s'égosille sur la graisse, caresse de plumes l'ébène, aère son matelas sur le rebord ensoleillé de la fenêtre. Son langage de refus se rappelle d'un fantaisie, vert fleuri, paix de l'âne. Mais l'herbe terrassée par la rosée est si parfumée sur les collines du haut pays à l'aube, fin duvet sur les cornes, tandis qu'elle récite le carnet de classe, mécanique populaire, grenouille disséquée, le vieux bonheur, un cercle de peintres et d'écrivains dans conversations nocturnes, des chefs sérieux, une chorale. Où sont-ils maintenant? jeu, musique de corps, porte de documents dans les cafés des boulevards, pluie sur les rues des tramways, tonnerre sur les bourgeons tous les ans, après décomposition dans le feu et la terre, reste des balles pour luire dans les fouilles, tandis que mes bois attirent la galaxie, tu me rappelles pour mourir, pour être lavé, préparé, l'enfance entre tes mains, femme, terre, vortex des régimes morts, mère, nous ne pouvons dépasser le seuil, chemise d'ours ou quitter l'eau claire.
Les poètes qui nous concernent sont ceux qui sont ouverts à une variété de poétiques et de techniques poétiques. Il ne s'agit pas d'influence, comme diraient les représentants de la langue de bois véhiculée par l'establishment académique, mais de la réalisation que beaucoup de choses peuvent se faire en dehors du mot étroit, prescrit par l'establishment nationaliste anglais. Et cela, effectivement, nous a fait détester dans certains lieux, et c'est pourquoi nos livres ne sont pas publiés ni critiqués par la grande presse capitaliste. La plus grande partie de la poésie intéressante produite en Angleterre est publiée par les poètes eux-mêmes dans les petites presses parallèles. À l'heure actuelle, dans ce pays, et les raisons économiques et politiques sont évidentes, bien que cela ait commencé dans les années 50, il y a dans ce pays un désir de former un bastion national, un désir d'insister sur notre propre culture, ce qui serait une meilleure définition de l'insularité. En fait, on n'est plus une île par le simple fait de l'hovercraft et de l'avion. Mais il y a cette idée nationaliste. Dans notre pays, cette nervosité envers l'Amérique et la culture américaine. On a été accusé d'être pro-américain. Sont des réactions de cette manière. Il y a tout un tas de gens, Robert Conquest, Donald Davy, Kingsley Amis, Wayne, tous ces nationalistes un peu fatigués qui ont horreur de toute influence américaine. Mais comme vous le savez, nous avons une langue commune. Disons que l'une est une variante de l'autre, pour ne pas être tendancieux. Mais le fait est qu'il s'agit de la même langue, de l'anglais. Cette idée de purisme nationaliste refuse toute infection par les États-Unis au niveau de notre littérature, ce qui est complètement irréel, étant donné les quantités de livres, de films, de produits américains déversés sur le marché.
Et
évidemment, ce sont les gens de droite, car ils sont tous politiquement de droite. Avec du Coca-Cola à longueur de journée. Et ils savent aussi très bien que si les livraisons d'armes et des dollars étaient stoppés, eh bien, ils seraient incapables de se maintenir. La quantité d'hypocrisie nationaliste dans notre culture est dévastatrice. Mais la différence entre ces gens et nous, c'est notre sens d'ouverture absolue. Nous écrivons en anglais et à notre manière, mais nous écrivons une poésie qui reconnaît les possibilités ouvertes par les poésies d'autres cultures, d'autres pays, ce qui me semble être la seule façon de procéder au niveau d'une culture viable à cette fin du XXe siècle. Nous ne sommes pas insularisés, même si nous avons nos propres limites.
The poem I'm going to read comes from a book called Elegies. In fact, it's Elegy number 10, and it is called Lorca, that is Federico García Lorca. Judge and civil guard have thrust a stiff flag in the moon. Winds, high plains, drums form one explosion and another. Every tale we tell is danger to judge and civil guard. Their television poets...
Juge et garde civile ont fiché un drapeau raide dans la lune. Vent, haute plaine, tambour forment une explosion et une autre. Chaque histoire que nous racontons, dangereuse pour juge et garde civile, leurs poètes télévisés, police, poésie du council, le sang glissant donne à la langue une chanson muette et serpentine. Juan Antonio s'abîme dans le canyon, brillant de rivaux et de soldats, police et propriétaire d'usines. J vert au clair de lune, battement des moteurs, battement des bottes au pas, un glaçon dans le cœur, avec permission sous garde, des garçons rôdent dans la ville.
The slippery blood gives tongue, a dumb and sneaky song. Juan Antonio rolls down the canyon, bright from rivals and soldiers, police and owners of plant. Lies green in moonlight, drums of engines, drums of lockstep, icicle in the heart, by permission, under guard. Boys roam the city, imitate movies, echo verbal lynchmen, blood by London railings, judge and civil guards smile, for no charge is needed against a black in Railton Road.
La lune grésille dans un ciel imbibé de chaleur, guerre lointaine dans les hauts villages de truites et étuis de cuir, écartés pour ses cuisses luisantes. Quand la compréhension parfaite a rendu l'esprit judicieux, glaive vert d'iris, cuivre ses solitudes d'amour, l'un après l'autre, les coques perforent la nuit, marge de la lune en arabe, un garçon ligoté par le garde civil, cassé en deux comme un bâton.
When perfect understanding has made the mind discreet. Green swords of iris, copper her solitudes of love. One after another, cocks prick the night, margins of the moon in Arabic. A boy trussed by the civil guard, broken in half like a wand. Only boats flow to the vanishing horizon, from piece of axe. De la paix, ankle de deep,
jusqu'à la
the
cheville,
endless anvil in high long night,
haute et longue, old candles allumées dans les églises, in churches, aux toits, en terrasses, de chiens d'or et de toile, rien à piller pour cuir verni. Le système garde et tuit, revolver, prêtre bouge dans leur crâne, cape bordée de sang dans le vent de novembre. Une fuite dans la mort, au bord du puits, un ange de sang ne monte ni ne descend, mais serpente à travers le pays. Country music. Ce pied qui rythme l'air bayou. Des mélodies arrivent à faire surface. Eau, draine, vert, calme, absolu. Nuages dépassent la tête. L'ouest, l'est, sur le vernis. Vent au-dessus de l'obscurité.
Country
du baptême vers d'autres risques. Une autre syntaxe. Et puis des
water down to ever still clouds pass your head, west, east, on the glaze, wind above darkness, a well for baptism into other risks. Another syntax. For now giant leaves to darker still thrash a walled court. Stream rises for them, splashed in fury of that singleness. The guard barks, the moon hides, thorns rape high plateau. Your wind erodes nerves off your legs. Stood at the well, palm open, for a nail of words. A song enters flesh and goes on, through nerve into the earth. I've said it, and in fact I've written it, that
je
is
l'ai
that
dit et écrit.
If in fact,
si
palm
Pound, Eliot, Dylan Thomas, Sitwell, David Jones,
Hugh McDermott,
Basil Banting, qui sont nos prédécesseurs immédiats, présentés aujourd'hui leur premier manuscrit chez un éditeur londonien. Ils seraient refusés immédiatement. C'est là une mesure de la sénilité de ce qui passe comme poésie parmi l'establishment. Cela dit, suggérer qu'il y a une école parmi ces poètes que je viens de mentionner serait risible. Ce furent des voix très individuelles. Nous avons beaucoup de chance que cette demi-douzaine de prédécesseurs immédiats a été d'une telle qualité et tous si différents les uns des autres. Qu'est-ce qui lie Hugh McDermott à Dylan Thomas, à Eliot, à Pound, à David Jones? La réponse, c'est qu'ils sont excellents tous, chacun dans sa propre forme. Je rajoute en vitesse qu'évidemment je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, mais cette variété a été une grande chance. Et nous avons encore la chance qu'il y en a un qui soit en vie, Basil Banting. Et c'est un très très grand poète. Il n'est pas possible d'imiter de tels poètes. Étant donné leur forte personnalité, ça se remarquerait immédiatement. Ce qui nous laisse libres avec leur excellence, qui nous libère et qui nous permet d'avancer. Il n'y a pas vraiment d'école de poésie. Les meilleurs poètes sont des gens qui sont très individualisés et qui ont été libérés. Il faut parler de ça. Ce sont des exemples d'individuation. Mais il ne faut pas être trop naïf non plus. L'ennemi, l'establishment, c'est très bien qu'il y a une marque distinctive, c'est-à-dire que leur traitement extrêmement plastique, la syntaxe, la grammaire, l'image, d'une façon très plastique, ces matériaux sont là pour être travaillés, moulés, transformés. Ils ont tous une immense confiance que cela peut se faire, qu'il n'y a pas de forme a priori, de moule préexistant qu'il faut imiter s'il veut se faire éditer. Notre poésie est publiée en grande partie par nous-mêmes. Gagner du fric n'est pas notre business. Et ça nous est égal qu'on soit mentionné par la grande presse, les critiques de l'establishment. En fait, on ne l'est pas, donc la question ne se pose même pas. Les sommes d'argent requises pour nos éditions sont minimes par rapport à celles nécessaires aux grands éditeurs, ce qui nous laisse libres. Ça veut aussi dire que notre auditoire est très restreint. Mais l'intégrité est à ce prix-là. L'important, c'est que nous n'avons pas besoin d'écrire pour des gens dont le cerveau a été lessivé et qui croient à tort qu'il existe quelque part une norme poétique, un courant principal. Deux problèmes donc, l'un économique, l'autre un problème de public, tous deux liés à la liberté d'expression. Il y a une chose qui couvre tout, c'est ce sens de liberté, ce sens de camaraderie dans la liberté que partagent ces poètes. Ce n'est pas une école, c'est un rassemblement de gens qui se respectent sans pour autant s'intimider. Et voilà une vraie définition de la liberté. Liberté, d'ailleurs très rare dans le monde littéraire, encore plus dans ce pays. Nous avons des problèmes quand même. Nous avons les moyens de production, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi avoir les moyens de distribution. On a des problèmes, là. À Londres, pour l'instant, il y a un seul magasin qui nous prenne en dépôt, qui essaye de nous vendre. Ça fait problème. Et on est réduit à une circulation dans un milieu réduit. Les gens qui organisent des lectures disent aux poètes d'amener leurs livres avec eux. Ça circule à partir de là. Mais ce n'est pas sur une grande échelle.
Ce qui s'est passé, c'est une confusion radicale entre la littérature et le fast-food culturel.
La poésie de l'establishment demande au lecteur
d'identifier des stimuli standards et d'y réagir de façon standard, ce qui s'inscrit parfaitement dans l'état conservateur et réactionnaire de notre culture. C'est-à-dire que le plaisir d'inventer, le plaisir de ce qui est nouveau, le plaisir d'être, pour commencer, étonné, voire dérouté, ce qui permet de découvrir ce qu'est le poème, et ce qu'on est soi-même, au-delà des définitions imposées par les autorités, ce stimulus-là n'existe pas dans les arts.
Here's a poem called Spicer, Elegy 13. Sung through the forest mirror, sung through the tree's cage, sung featherless, eloquent, sung limed by hunters.
Chanté à travers le miroir de la forêt, chanté à travers la cage des arbres, chanté sans plume, éloquent, chanté pris au gluau par les chasseurs, arrêté par le vin, par des arbres pleins d'oiseaux, par nos échos flottant sur le bosquet, arrêté par des anges imprimés, arrêté par la couverture, par l'idiot cœur balafré, par le jardinier Atropos, une chouette qu'ils ont ici, à l'école, un buisson sans branche, une robe de cuir ajustée, un bâillon. L'agent parle. Regardez, je suis le roi de la forêt, je ne m'ajuste pas à l'absence. Une lente saison rameuse, je dormais dans les racines, nuit bouleau, nuit palme, mangeais sel, brume, air. Chantez, le Saint-Esprit flotte dans des arbres nommés, jouets en bois, caractère en bois, chariot en bois, abandonné par la gueule béante, canyon enfer. Bill the Kid, dans un champ de peupliers touché par un seul rayon de lune. Son ombre entre eux ne meurt pas quand soleil passe au-dessus. Poésie pour gens qui ne doutent de rien ou les tirer au fusil. Dire les choses que je ne sais pas, ça essaie de guérir. J'en ai marre du mot juste et des poètes à qui j'ai essayé d'apprendre le mot juste. Suis devenu un miroir kid, niant le kid, un ange devenu noir, un poisson de culte découpé au bord de la mer pour mouette nécrophage. La lutte recommence à écraser le message qui impose. Héroïque héros musical pourri, fit offrande de brillants stupides. Nous savons qui dirige ce pays. Craignez le solitaire de l'aube, son ami, sa bite, son regard sans sourciller, ivre de cactus à l'âge de l'homogène, le miroir gorgone. Jamais, même pas une seule fois, ne le regarde dans les yeux. Le roi vert.
La nouvelle poésie anglaise par Pierre Joris. Aujourd'hui, Éric Motram. Texte dit par Michel Maire. Groupe de réalisation, Monique Pratt, Nicole Valeron, Jacques Taroni. Albatros.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 octobre 1983. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.